Un tango, une danse, un baiser.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21 ans.
Marie Richeux.
Et c'est que le monde dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseur.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Nous sommes nombreuses et nombreux à considérer que la danse est une des meilleures manières d'être bien et d'être bien ensemble. Vous qui nous écoutez, vous avez forcément des souvenirs de bals d'été joyeux, d'un club immense et enivrant, d'une petite soirée de rien du tout qui se transforme en battle de chorégraphie devant YouTube, et d'un enfant qui tourne sur lui-même au milieu de musiciens. Cela n'a pas de prix, c'est tout simple et ça peut recharger les cœurs fatigués. L'amour de et suscité par la musique est immense. Vous faites partie des convaincus Miss Inès. Voilà plusieurs années que vous mettez votre large curiosité musicale au service de DJ sets qui tissent ensemble, par exemple, hip-hop palestinien, musique underground tunisienne ou classique suggérée par des hommes et des femmes que l'on dit en transit. Vous vous êtes fait une place dans l'univers masculin des DJ en Tunisie, oui, mais aussi en fait en France et ailleurs, et vous vous évertuez à mettre beaucoup d'ailleurs dans vos sessions où que vous soyez. Bonsoir Miss Inès et bienvenue.
Bonsoir Marie.
Vous jouerez prochainement le 28 juin à Marseille avec Shadia Mansour. Ce sera où ?
Ce sera au Molotov.
Au Molotov, le 5 juillet prochain au festival Timitar, cette fois à Agadir. Et on aura la chance de danser et de vous entendre dans les soirées des Suds à Arles. Le 13 juillet prochain, on commence par écouter, comme on dit, les anciens, les collègues.
Mon disque jockey, c'est déjà un amoureux de ce qui passe et qui a envie de faire partager sa passion à d'autres gens. Et voilà, qui amène de la chaleur et qui peut enchaîner par ses goûts musicaux, il peut arriver à enchaîner des choses qui n'ont rien à voir.
Disque jockey, ça veut dire chevaucher le disque, c'est-à-dire qu'il fallait présenter des nouveautés, quoi. Même dans les sound systems jamaïcains, c'était ça, quoi. Les labels prenaient des disques jockeys en disant voilà le nouveau son de Coxon ou d'ailleurs. Et ensuite, c'est les discothèques, quand elles sont arrivées dans les années 70, qui ont changé le terme et DJ est devenu celui qui met les disques pour faire danser les gens. Mmh. Et là, le côté présenter des nouveautés a un peu disparu. Maintenant, ça passe par une performance technique qui passe par le scratch, par le mix, par autre chose, quoi. C'est un DJ qui a une identité, qui se fait une ambiance à lui, quoi.
On entend deux grandes figures de la pratique DJ en France, en tout cas sur la scène, et deux qui ont fait beaucoup pour l'introduction du hip-hop en région parisienne. C'est DJ Zebra et Dynasty. C'est une émission de 2005 qui sont au micro de Valli sur France Inter. Et à l'époque, il y avait même dans cette émission DJ Mehdi par téléphone. On commence par eux. Miss Inès, peut-être pour savoir si ce sont des gens qui vous ont dit quelque chose, au sens, est-ce qu'ils ont participé à une formation de votre goût musical? Est-ce que c'est des figures de référence ou pas du tout?
Je pense que oui, indirectement, parce que c'est des figures majeures du hip-hop en France, notamment Mande Dynasty, qu'on connaît tous. Et comme j'ai beaucoup écouté de hip-hop et que ça fait vraiment partie de des fondements de mon identité musicale, et que Dynasty est un des acteurs majeurs de cette culture, et non pas seulement de cette musique, mais de cette culture. Oui, Dynasty fait complètement partie de ceux qui ont contribué à diffuser cette musique-là, et cette musique qui a fini par m'arriver dans les oreilles. Et donc oui, c'est une figure majeure pour moi, et je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit dans ce qu'il raconte quand il parle d'un partage de découvertes, d'un désir de diffuser ce qu'on entend, ce qu'on aime, nos coups de cœur, en fait. Et moi, c'est complètement ça qui m'a mise dans le DJing. C'est vraiment l'amour de la musique, mais en plus l'amour de faire écouter ça aux gens, en fait, en disant regarde, écoute, j'ai découvert ça, qu'est-ce que t'en penses, et de regarder la réaction des gens quand ils écoutent ce que je leur passe. Et d'ailleurs, même quand je vais dans des soirées, de regarder la réaction des gens quand d'autres DJ passent de la musique, ça me fait exactement le même plaisir que quand c'est moi qui joue. Ouais.
Parce que ce qui vous intéresse, c'est quoi ? C'est l'impact de la musique sur le corps, sur l'âme des êtres humains qui sont rassemblés là pour l'écouter ?
Oui. Ouais. complètement l'impact de la musique et à plus ça c'est à court terme en fait, c'est une réaction qui est à court terme, et à plus long terme c'est l'impact de la musique comme phénomène social et politique, parce que la musique est aussi un phénomène social et politique, et j'aime voir son impact dans l'histoire en fait, comment ça impacte l'histoire, à quel point ça accompagne certains courants politiques. On le voit enfin avec plein de choses, avec le blues, avec le jazz, avec le free jazz, avec le hip-hop. Ça, c'est des choses qui sont très, très intéressantes à observer pour moi, ouais.
Vous dites, Missines, que tout commence par le plaisir de partager de la musique et de voir ce que ça fait. Ça veut dire que ça commence quoi dans une chambre, à cette échelle-là, avec une réunion de copains ou de copines, et d'essayer de faire découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas?
Ouais, je pense que ça en fait... Oui, ça commence là quelque part, mais ça commence aussi quand on a des, je sais pas, même des souvenirs comme ça d'enfance, d'école ou même les choses très très mainstream là, comme les Spice Girls, et de se réunir et d'aimer ça ensemble en fait, de pas aimer ça toute seule, d'aimer ça ensemble. Je trouve que ça a un pouvoir liant qui est très très fort, la musique. Ça peut amener deux personnes radicalement différentes qui se connaissent pas, qui viennent de milieux différents, qui se seraient pas croisées, à ressentir une émotion extrêmement similaire. Et je trouve que ça brise beaucoup de pas seulement de frontières, on va certainement parler des frontières, mais aussi des espèces de limites, les limites de l'âme. Je sais pas comment dire ça en fait, mais ça fait que moi et quelqu'un que je pourrais, je sais pas, ne pas apprécier, voire même détester, on peut ressentir la même émotion à l'écoute du même morceau. Et je trouve que c'est un pouvoir quand même colossal.
Il y a une différence entre peut-être écouter Spice Girl dans la cour d'un établissement scolaire et ensuite mixer de la musique, élaborer des sets, partager dans des salles qui sont fait officiellement pour ça. La trajectoire se passe comment et elle se passe où? C'est peut-être pas un hasard que vous évoluiez des années dans le 18e arrondissement. On parlait de l'arrivée du hip-hop à Paris. Ça a été des lieux extrêmement importants, ces endroits-là.
Oui, moi j'ai un ancrage très fort dans mon 18e, dans mon quartier. Ça fait vraiment partie de mon identité. Je pense que c'est une des marques les plus fortes de mon identité. C'est le fait d'avoir grandi dans un quartier comme Barbès, comme la Goutte d'Or, comme la Chapelle. Je pense que j'ai une espèce de curiosité naturelle. J'aime beaucoup aller vers les autres. Et parler avec les autres et découvrir des choses que je connais pas. Et cette curiosité-là, elle s'applique aussi à la musique. Et quand j'ai commencé à mixer, c'est parce que j'étais assez passionnée de musique électronique, de drum and bass, que je trouvais que c'était une musique qui appelait une espèce de transe, enfin quelque chose de très puissant en moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mixer. Et j'ai fait ça, de la drum and bass et du breakbeat, de la jungle, pendant pas mal de temps.
Comment est-ce qu'elle arrive à vos oreilles?
Moi, j'étais au lycée autogéré de Paris. Le lycée autogéré de Paris, on allait tous en rave. Enfin, la moitié du lycée était, on se retrouvait en free party les week-ends.
Pas à Paris, les free parties.
Oh, dans les abords, hein. Mais il y avait des soirées, je me souviens, à la Flèche d'Or, il y avait la Massive Orex Club. Enfin, il y avait quand même pas mal de choses déjà dans Paris à ce moment-là. Et c'est comme ça que la drum and bass, c'est comme ça que c'est arrivé à mes oreilles.
Donc c'est finalement en dansant. C'est vous-même en allant danser, c'est vous-même en allant faire la fête que vous découvrez ce plaisir du partage musical à cette échelle-là, je veux dire.
Alors oui et non, la drum and bass, ça m'a donné envie moi d'être DJ. Je me suis dit en fait, je vais passer le cap et je vais le faire. Mais ça faisait un moment que j'y pensais, mais j'ai trouvé le courage de le faire en fait, de passer à l'acte. Mais moi, je me souviens quand même que quand j'étais au collège, quand il y avait des booms, j'adorais passer la musique déjà. Donc vous voyez, j'avais déjà un truc comme ça. J'y pense en parlant, mais ça m'a pas, comment dire. C'est pas aussi marquant que ça, mais je réalise quand même que déjà à l'époque, j'aimais bien passer la musique pendant les booms quand j'étais au collège, ouais. Ouais, ouais.
Donc on retrouve alors cette scène-là, parisienne, drum and bass, jungle, ouais. Et vous vous mettez à jouer ces morceaux-là, ouais. À jouer cette musique.
Je me mets à aller acheter des disques à Black Label à l'époque, rue des Thaïlandiers, je crois, ou la rue d'à côté.
11e arrondissement.
Chez Pico et Bacar. Et j'ai commencé à collectionner les disques. Et puis après, j'ai eu mon bac et j'ai pu m'acheter des platines parce que j'avais économisé un peu d'argent et que mes parents, à l'époque, m'avaient aidé pour me féliciter d'avoir mon bac parce qu'ils pensaient que je l'aurais jamais.
Et plus que pour vous féliciter de commencer une carrière de DJ?
Non, non, vraiment pour me féliciter d'avoir mon bac parce que comme j'avais passé la moitié de mon année en rêve party, ils se sont dit, elle n'aura jamais son bac, c'est impossible, en fait. C'est vrai que comme ça, sur le papier, c'était pas gagné. Bon. Et non, ils m'ont pas. C'était pas pour me féliciter. Non, c'était pas pour m'encourager dans ma carrière de DJ, pardon. Et donc oui, j'ai commencé à mixer, j'ai commencé à jouer en fait et à trouver des copains avec qui partager ça. Et puis après à rejoindre 2-3 collectifs à Paris qui m'ont donné la possibilité de me produire un petit peu. Et voilà, ça a commencé le DJing à proprement parler de cette façon-là, oui.
Comment est-ce que petit à petit, ça devient une pratique autre que celle qu'on en vient d'essayer de décrire, Miss Inès, passer de la musique pour les copains, puis pour des groupes un peu plus constitués. Qu'est-ce que ça fait de jouer un soir devant des gens qui sont pas venus nous voir, devant des gens qui nous connaissent pas, devant des étrangers, de se dire ma responsabilité, ma mission, c'est de les faire danser et de leur faire écouter de la bonne musique.
Waouh.
Peut-être c'était pas aussi grave que ça dans ta tête.
Non, c'était pas aussi grave que ça dans ma tête du tout. Moi, ce qui m'importait, c'était de faire ça bien, de vraiment pas être une imposture, de le faire vraiment bien en fait, d'être une bonne DJ, techniquement d'être une bonne DJ et d'avoir un propos musical intéressant. Et je dois reconnaître que c'est pas ce que j'ai découvert de moi-même dans la drum and bass. C'est justement quand j'ai commencé à mettre un peu de côté la drum and bass et à m'autoriser à jouer tout ce que je veux, que j'ai assumé un autre propos musical et que j'ai trouvé que mon propos musical valait vraiment le coup d'être partagé. Je dénigre pas ce que j'ai fait avant, hein, surtout quand j'ai joué drum and bass et dub en Tunisie dans les années 2006-2007, où vraiment c'était un moment très fort et très intense émotionnellement, des moments de partage vraiment, on était encore sous Ben Ali, donc ça voulait dire plein de choses de jouer de la drum and bass en Tunisie à cette époque-là. Mais mon amplitude musicale, elle est venue justement après.
Juste peut-être pour rester un instant sur ces moments-là, 2006-2007, en Tunisie, pendant très longtemps, la Tunisie, c'est un endroit où vous allez en vacances, où vous rejoignez de la famille, et puis à un moment donné, vous décidez que ça va être un autre endroit pour vous, que ça va être un endroit d'exploration, et de femmes, de citoyennes, de musiciennes, de DJ, et ça passe par ça, ça passe par devenir DJ en Tunisie.
Ça passe par découvrir la scène musicale alternative en Tunisie. C'est d'abord ça en fait. Et je pense que, enfin, aujourd'hui avec le recul, c'est très symbolique quand même de vouloir partir en voyage en Tunisie pour découvrir la scène alternative. Enfin, ça dit quelque chose en fait. J'y suis vraiment allée pour ça. Hein. Et ça dit quelque chose. Ça veut dire je voudrais voir mon pays mais d'une autre manière en fait. Je veux pas juste être cette personne qui rentre en Tunisie l'été, qui profite du beau temps et de la plage et puis qui repart en fait. Je veux construire un rapport à mon pays, à mon histoire différent.
Et très actuel. Ça, c'est assez fort. Quand on dit je veux explorer la scène alternative contemporaine, ça veut dire que c'est aussi un lien que vous voulez tisser très au présent, il me semble.
Oui. Un lien différent, en tout cas. Au présent, différent et un lien beaucoup plus passionné en fait, beaucoup plus important, beaucoup plus humain, beaucoup plus tout en fait.
Quand vous voyez cette jeunesse que vous avez ou bien fait danser ou bien écouté faire de la musique ou bien avec laquelle vous avez dansé vous-même se soulever en partie pour déstabiliser et faire tomber le régime de Ben Ali, vous le vivez comment, vous qui n'avez pas grandi là-bas et qui avez vécu une autre jeunesse?
Alors moi, j'ai vécu une autre jeunesse, vraiment radicalement différente, oui. Mais par contre, j'ai vécu une jeunesse très, très, très imprégnée de politique. La politique était omniprésente dans mon histoire et l'est encore.
Peut-être on peut dire un peu pourquoi, si vous le souhaitez ou pas forcément.
Oui, parce que mes parents sont étaient en tout cas des opposants politiques à Bourguiba puis à Ben Ali. Donc, j'étais finalement très connectée avec la réalité politique, sociale, économique du pays. Et, Et le fait, en fait, d'avoir exploré, d'avoir été en Tunisie très longtemps, à partir de 2006, d'y avoir passé beaucoup de temps, d'y avoir fait beaucoup de musique, de m'y être fait plein d'amis, enfin, ça fait que si, en 2011, je sentais que je faisais partie de tout ça, en fait. J'ai pas eu l'impression d'observer ce qui se passait, en fait. Je sentais que je faisais partie de tout ça. Je pense que la question de la révolution, elle s'est posée des centaines de fois quand je vivais en Tunisie et avec beaucoup de personnes, avec les gens de la musique alternative, mais pas que, avec les ouvriers. Enfin, moi, dans ma famille, il y a des disparités économiques. Il y a des gens qui sont très très aisés, puis il y a des gens qui sont vraiment vraiment pauvres. Et ça, je le voyais déjà, en fait. Et la question du changement de régime, la question de l'urgence du changement de régime, on en a parlé. Enfin, c'était un... En tout cas, je me souviens qu'avec mes copains, justement, de la musique, c'était un dessein, c'était un but absolu, quoi. Et faire de la musique, pour nous, c'était déjà faire la révolution, oui.
Et puis arrive la nuit du 14 au 15 janvier 2011.
Tous les Tunisiens, quelle que soit la classe sociale, c'est-à-dire que classe A, B, C, les pauvres, les riches, toutes les personnes sont barricadées dans leurs maisons, tout le monde sait qu'il ne doit pas ouvrir la porte aux inconnus, et on a réellement, mais réellement peur. Et j'ai pas l'impression que les choses s'arrangent, parce que là, je suis sur Twitter, il y a plein de gens qui ne sont pas contents du fait que Ranouchi ait pris la présidence par intérim. Ce n'est pas normal que le président disparaisse comme ça du jour au lendemain. Il a quand même des comptes à rendre. Il s'en va, mais il laisse le pays comme ça, dans le désordre total. J'ai bien envie de dire qu'on est courageux, qu'on est optimiste, mais là, à l'instant présent, on ne dort plus et on a peur.
Drôle de nuit dont rend compte la blogueuse et activiste Emna Benjema, ici au micro de France Inter, le 15 janvier 2011. Drôle de nuit parce que ce n'est pas que la liesse, cette chute de Ben Ali, et on sent une sorte de stupeur. J'ai bien envie de dire qu'on est courageux, mais en fait là, on a peur. Est-ce que vous vous rappelez de cette nuit-là, Miss Inès?
Oui, je m'en souviens, moi j'étais à Paris cette nuit-là. Et je trouve qu'elle est très, elle a vraiment les pieds sur terre quand elle dit ça, en fait, parce que, parce que passer la liesse et passer la joie, passer une certaine satisfaction d'avoir fait en sorte que la peur change de camp et d'avoir pris le pouvoir, en fait. Là, c'est vraiment le pouvoir au peuple, hein. C'est plus seulement un slogan quand on voit ce qui s'est passé en janvier 2011 en Tunisie. Mais elle est très réaliste parce qu'elle sait que c'est l'inconnu, là
que ça suffira pas.
Ah bah oui, et qu'il va falloir construire, en fait. Elle le sent certainement en elle-même, que c'est il suffit pas de raser, quoi. Il faut préparer la suite, et on sait que la suite, ô combien a été difficile, elle l'est encore pour les Tunisiens aujourd'hui. Alors évidemment, c'est plus de l'actualité aussi brûlante qu'en pleine période de révolution et de soulèvement populaire, mais la vie est difficile quand même pour les Tunisiens aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est devenu très très difficile pour eux. Ouais.
Ça couronne peut-être, ou ça vient ponctuer, pour être moins radical dans les frontières, cette période où vous avez passé beaucoup de temps là-bas et vous vous êtes lié de manière très forte avec des gens de votre âge qui faisaient ce que vous faisiez vous, mm-hmm. c'est-à-dire faire de la musique, partager, mm-hmm. danser sur la musique. Quel retour, quel bruissement vous avez ce soir-là ou cette nuit-là de cette jeunesse avec qui vous avez fait de la musique de cette manière-là, Miss Inès?
J'essaie de me souvenir, ça commence à
faire un moment.
Dater, ouais. Mais je sais que je me souviens que j'ai eu des amis au téléphone. Et on se disait Mabrouk, ça veut dire félicitations. Et comme Emna, et après, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, je sais que j'ai eu ma famille ce soir-là au téléphone et que et qu'ils me disaient quand même qu'ils avaient peur, il y avait des hélicoptères qui passaient au-dessus de chez eux. Enfin, faut quand même imaginer de quoi on parle, quoi. C'est un état proche d'un état de guerre, en fait. Vous voyez, avec des couvre-feux, avec des hélicoptères, avec des patrouilles, on ne sait pas si c'est des
miliciens, des pilleurs, des policiers,
et puis quelle police, enfin, vous voyez, loyale ou pas, enfin, et qu'est-ce que c'est que la loyauté à ce moment-là? Enfin, je pense que ça perturbe tous les points de repère, mais ce que j'ai ressenti en tout cas auprès des personnes avec qui je suis proche, dont je suis proche en Tunisie, c'est que ça y est, on l'a fait en fait, et ça va être dur et ça va être pénible, et ça l'est et ça l'a été, hein, avec des assassinats politiques, enfin des choses très très difficiles, mais on l'a fait. C'est plus juste un rêve en fait dont on parle en fermant les fenêtres et en augmentant la musique pour pas que les voisins nous entendent, parce que c'est ça la dictature quand même. C'est fermer les fenêtres avant de parler de politique et vérifier qu'il n'y a personne autour. Et je sais que les semaines d'après, le 14 janvier 2011, ce qui a le plus marqué tout le monde, c'est qu'on pouvait parler. On pouvait parler. Et même si cette liberté de parole a été mise en danger, était tout le temps sur le fil du rasoir, beaucoup de Tunisiens ont continué, Tunisiennes, ont continué à se battre au quotidien pour que cet acquis-là ne meure pas. Et pour moi, ça fait la différence, en fait. Moi, quand je suis rentrée de Tunis, je me souviens, j'étais revenue à Paris à un moment donné, je crois que c'était en 2007, il y avait des élections présidentielles en France. Et je me souviens que je marchais dans le Marais avec un ami à moi, et on parlait un peu de la scène politique française, et je me suis mise à chuchoter. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais Inès, parle plus fort, pourquoi tu chuchotes? Et j'ai réalisé, en fait, enfin, à quel point j'ai
intériorisé.
Ouais, et j'ai absorbé, et je lui ai dit, parce que je rentre de Tunisie, en rigolant, en fait, je lui ai dit, j'arrive de Tunisie. Et il m'a dit, mais pourquoi? Et je lui ai expliqué, en fait, à quel point, bah, on a des réflexes, en fait, de parler doucement, de faire attention à ce qu'on dit, à qui, où, enfin, vous voyez, et imaginez, quoi, enfin, le 14 janvier 2011, il y a ça qui chute. Et les gens, ils sont en train de parler de politique. Enfin, moi, je suis très vite retournée en Tunisie après le 14 janvier, dès que l'espace aérien était rouvert. Et j'ai vu des gens qui parlaient de politique dans la rue. Enfin, je sais pas, enfin, je sais que ça paraît peut-être tellement évident et tellement normal.
Non, pas du tout, voilà. C'est très émouvant.
C'est dingue. Enfin, on était, je sais pas, au café. On pouvait parler de politique et dire ce qu'on avait à dire. Enfin, je crois que c'est certainement ce que je retiens de plus fort, en fait. C'est ça.
Est-ce que signer un DJ set avec ce que vous expliquiez tout à l'heure, Miss Inès, un propos musical qui rejoint finalement ce que peut être un propos politique au sens noble du terme, de prendre la parole dans la cité, c'est l'inverse de parler tout bas?
Ah, complètement, oui. Ça peut être une métaphore. En fait, bon, le hip-hop est une musique quand il y a des paroles qui peut être très directe. Et j'aime aussi la musique directe, mais il y a aussi des musiciens qui sont très poétiques, qui ont une écriture, enfin, des auteurs qui ont une écriture très poétique. Et ça peut être, j'aime bien jouer de ce paradoxe, en fait, entre prendre la parole, mais dire les choses de manière un peu parabolique, en fait. Et on a beaucoup fait ça, on a beaucoup fait ça avant.
Contourner.
Ouais, pré-révolution, on a beaucoup fait ça, et ça donne une création extrêmement intéressante. Mais ça, je pense que c'est partout, hein, c'est pas que en Tunisie, ici aussi, quand Molière écrivait des pièces de théâtre, ou quand La Fontaine écrivait des fables, et ils utilisaient tout le temps cette notion de dire ce qu'on a à dire, mais d'une manière qui est pas, non, moi je parle des animaux, et je trouve que c'est ça la création, c'est ça l'inventivité, en fait. Ça oblige à trouver des solutions. C'est un peu comme les vous savez, les plantes qui poussent du bitume, en fait. Voilà, c'est un peu ça, ouais.
Vous dites pas que en Tunisie, et c'est à dessein, Miss Inès, parce que j'ai introduit votre travail en disant que vous aviez à cœur de mettre beaucoup de ailleurs, quels que soient les endroits où vous jouez. On va entendre quelques morceaux d'artistes qui vous tiennent à cœur, mais quel genre d'écriture, puisqu'on parlait de contournement ou pas, utilise un artiste que vous aimez beaucoup, qui s'appelle Sharap?
Alors, chez Arap, tout est dans le titre. Son nom d'artiste, c'est la contraction de deux mots arabes. Il y a le mot sha'r qui veut dire, enfin, d'un mot arabe et d'un mot anglo-saxon. Il y a le mot sha'r qui veut dire la poésie. Et rap, donc, comme le rap. Je trouve qu'il a très bien trouvé son nom d'artiste parce que c'est exactement ça, en fait. Il est dans une, il scande ses textes d'une manière qu'on peut quand même affilier au hip-hop, mais il a une écriture extrêmement poétique et extrêmement cultivée, extrêmement instruite. Enfin, c'est le reflet de sa personne. C'est quelqu'un qui lit énormément. J'ai la chance d'être en contact avec lui, de le connaître. C'est quelqu'un qui lit énormément. Et pour la petite histoire, donc il vient de Ramallah en Palestine. Et pour la petite histoire, moi j'ai fait écouter sa musique à des vieux intellectuels arabisants qui m'ont dit mais je connaissais pas ce texte de Mahmoud Darwish ou j'avais jamais entendu cette version de Bayram Tounsi. Je ne sais pas du tout, c'est un jeune homme de 25 ans qui est à Ramallah en Palestine qui a écrit ça.
On l'écoute et puis peut-être on parle de la manière dont vous les rencontrez, ces jeunes hommes de 25 ans ou ces jeunes femmes.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
رأيتك في الويل والليل الذي أطيله في الفكر والتقليب والقلب الذي أعيله أكفكف الدمع وكم أخشى مسيله مما تبقى من قصائد تدمي ولا تشفي غليله أنا لم أعد أطيقه الحب ولا عقيقه والي رفات الميت الذي أودى جميله الذي يمضي بلا زوادة ولا فتيلة وامضي أنت في أعيادك الطويلة إلا قليلة تبقى أن أفضي بما في خاطري سأنبت الأرض على حث الحوافر سأقشر الروح المصابة أخبر الكون القديم عن فؤادك المحشو في الصرار والحجارة أنباء عنك تلهيني عناق في عروق العين يبقيني كأني مت أدفع الإبلاء عن ديني زمان لا أعيره إلا الهجران والبطلان يا بحاشة البين فيا الله من أعماق قيعاني يصرخ الطفل الوضيع الجاهل الجاني الذي كثرت رواحله بلا نوق وركبان الذي غاضت مرابعه بلا أرض وغدران كرهت العيش لا عشت ولا عاش كرهت العيش كم في العيش إكراه وأنباء مكررة وتلفاز وأشلاء وغرقى والصعيد الزلق يمسكهم وأمواج تجدفهم وملاح
لمن نشكو مآتينا ومن يصغي لشكوانا ويجدينا أنشكو موتنا كلا لوالينا وهل موت سيحيينا قطيع نحن والجزار راعينا ومن فيون نمشي في أراضينا ونحمل نعشنا
قسرا هنا الليل الطويل والقناديل البدايات النهايات المجاهيل المسافات البنايات المجارير الكلاب.
Vous parliez en introduisant Sha'Rap tout à l'heure, Miss Inès, qu'il y avait une importance du verbe. On l'entend même dans le mix et dans la manière dont c'est produit. La voix est devant, le flow a une importance poétique. Moi, je comprends pas ce qu'il dit, mais on entend vraiment que, y compris dans la production musicale, il y a un amour de la poésie. Alors, on a fait la promesse de raconter comment vous les rencontrez, Sha'Rap ou d'autres.
Sha'Rap et en l'occurrence Mokeball à la production, parce que vous parlez de la production, effectivement c'est la qualité de la production est notable aussi, et c'est un travail de Mokeball qui lui est syrien, voilà. Comment je les rencontre, il y a soit je voyage physiquement, soit je voyage via internet et internet est un outil magique. Je suis une grande fan d'internet, mais avant tout j'essaie de voyager physiquement. Ouais. Et la Palestine, j'ai eu la chance d'y aller il y a 3 ans environ, un peu moins de 3 ans, et d'y rester 3 mois. Et ça a été un voyage extrêmement marquant à plein de niveaux, à plein d'égards, pas seulement pour la musique en fait. D'abord, c'était un rêve, même si je sais que ça paraît bizarre de rêver d'aller en Palestine, mais il y a plein de raisons de rêver d'aller en Palestine, parce que c'est aussi les traces de civilisation parmi les plus anciennes au monde, et Mais oui, c'était un voyage très très intense. J'ai passé du temps en Jordanie, j'ai passé du temps en Égypte. C'était la même. En fait, c'est un peu la même approche que quand je suis partie en Tunisie.
J'allais y venir. Ouais, c'est ça, avec ce désir de découvrir une scène particulière qui était la scène alternative du moment. Et donc, du coup, vous vous déplacez avec un désir qui est finalement le même, mais dans un pays avec lequel vous n'avez pas du tout les mêmes liens.
Ou quasiment pas de liens en tout cas, ou peu en tout cas. Enfin, si au Moyen-Orient j'ai des liens, mais c'est des liens culturels en fait, parce que voilà, on fait partie un peu d'un tout qu'on appelle le monde arabe. Il y a une communauté de langue, il y a une communauté culturelle avec la musique, avec les films et tout ça, et voire avec la politique. Mais oui, c'est une approche finalement très similaire. Je m'en rends pas forcément compte. Enfin, en tout cas, je ne m'en rendais pas forcément compte en faisant ces voyages, mais maintenant qu'on en parle, oui, il y a quelque chose de l'ordre du... C'est comme si... c'est un peu comme aller écouter un concert, quoi. C'est aller découvrir quelque chose dont on a un peu entendu parler et y aller en ayant vraiment les sens en alerte. C'est ça, en fait. Et être prête à la rencontre. Être prête à rencontrer des gens.
Mais concrètement, ça veut dire que vous écumez les plateformes de partage musical, vous vous renseignez sur ce qui se fait en ce moment en Jordanie, ce qui se fait en ce moment en Égypte, ce qui se fait en ce moment en Palestine. Et une fois sur place, vous vous débrouillez pour assister à des DJ sets, à des concerts, rencontrer les gens. Voilà, ça se passe comme ça.
Voilà, vous pourriez le faire aussi. Vous avez la méthode, c'est bon. Oui,
peut-être
c'est ça.
Que je ne saurais pas forcément où chercher. Peut-être que vous, c'est des choses que vous avez identifiées.
En fait, ce qui se passe, c'est que généralement, je découvre un, deux ou trois artistes d'une scène et je me dis, cette scène-là, elle est intéressante. Il y a quelque chose qui va se passer. Je sais pas, je sens une ébullition. Et je me dis, c'est là que j'ai envie d'être maintenant. Et c'est ce qui s'est passé. Quand je suis partie en Tunisie, j'ai découvert la scène hip-hop tunisienne et je me suis dit, là, il va se passer quelque chose. Cette scène-là, elle va sortir de l'ombre et il va se passer quelque chose, et finalement c'est ce qui s'est passé quand même après la révolution.
Et quand on dit passer quelque chose, ça veut dire que les gens vont monter de plus en plus de concerts, qu'il va y avoir quelque chose qui va se fortifier,
ça va devenir phénoménal. En fait c'est ça, je me dis, ça va devenir un phénomène musical, politique, culturel, social, ça va devenir un phénomène
en dehors des frontières tunisiennes.
Ouais, je sais pas, je sens ça en fait. Des fois je me trompe, hein, mais des fois je le sens et je me dis, il va se passer un truc. Ça va parler aux gens. Cette musique-là va parler aux gens en fait, pour une raison que on peut pas forcément d'ailleurs expliquer. Après, si par exemple sur la scène hip-hop électronique palestinienne, il y a une synergie en fait de d'influence et de courants musicaux qui fait que c'est une scène qui est exportable, qui peut parler à beaucoup de gens, parce qu'il y a des accents techno, il y a des accents grime, il y a des accents basse musique, mais il y a
quoi,
aussi
grime,
c'est le on va dire, c'est un rap anglais assez à l'anglaise, donc avec beaucoup de basses et avec une force de frappe un peu
agressif,
dirty,
quoi,
un peu sale. Ouais, il y a un petit côté sale, dirty, ouais, dans le bon sens du terme.
Petite parenthèse, puisque vous dites que finalement c'est exportable pour ces raisons-là, on sent que votre oreille est faite à la finesse, par exemple, de la production du son en Angleterre. Qu'est-ce que vous aimez bien de ce côté-là? Après, on reviendra en Palestine.
Bah, jungle, la drum and bass, le grime, toutes les bass music, le dub, le ska qui se fait en Angleterre, enfin tout en fait. Voire même certains rock anglais. Moi, je suis pas très rock. C'est pas une musique qui me. Enfin, je respecte énormément, mais c'est vrai que c'est pas forcément la scène pour laquelle je vais me battre, on va dire. Ils ont une culture du son en fait. Je sais pas, ils ont une culture de la musique et des crossovers. Ils sont beaucoup moins limités que nous en France. Ils sont pas du tout dans les cloisonnements musicaux, artistiques et créatifs. Il peut y avoir des associations musicales complètement improbables et qui fonctionnent. Et puis ils ont la basse culture, quoi, le son chaud, vibrant de la basse, de l'infrabasse. Ils ont une maîtrise phénoménale de cette partie-là de l'équaliseur, on va dire.
Des fréquences.
Ouais, voilà, exactement.
Et l'utilisant, donc, cette fameuse scène que vous rencontrez, vous vous dites, parce que ça travaille cette manière-là de faire du son, ça travaille ses basses, alors ça va circuler. Et ça va circuler au-delà du petit cercle de connaisseurs.
Oui, et parce que, en fait, ils ont des artistes, des producteurs qui vraiment arrivent à amener une identité nouvelle, un son nouveau. C'est-à-dire que Et c'est ce qui s'est passé en France avec le rap, c'est-à-dire qu'il y a eu un son rap français. C'était plus seulement du rap en français, il y a eu un son rap français.
À partir de quels albums, de quels groupes?
Très vite, hein, Solar, IAM, très vite, il y a eu c'était plus seulement du rap en français. On a développé notre son un peu.
Donc un disque, c'est aussi 113 et l'introduction de quelques instrus assez électroniques qui vont après aujourd'hui, bien sûr, avec une sorte de... Vous parliez de crossover, mais là, l'introduction de la musique très électronique, des vocodeurs, maintenant ça y est.
Alors, faut quand même savoir un truc, c'est que le hip-hop dans la fin des années 80, c'était du hip-hop électronique. Enfin, il y avait c'était quand même très très électronique comme son, avec certains synthés, avec certains vocodeurs dont vous parlez.
Mais aussi des instrus de sample de jazz, etc. Il n'y avait pas que de l'électronique.
Non, non, non. Alors, dès qu'il y a eu du sampling, effectivement, ça a été tout de suite jazz et soul, beaucoup. Je pense qu'un truc qui a distingué les Français, c'est dans leurs utilisations des samples classiques, notamment l'album de Lunatic, Mauvais Oeil, l'utilisation des samples classiques, et ça sonne très français, quoi. Ça y est, on a vraiment un son à la française.
Le petit piano.
Ouais. Et les violons, les cordes, pas le temps pour les regrets, les cordes, c'est là on sent l'instru produite par un Français en fait. Je sais pas, des fois c'est dur de parler de la musique avec des mots, mais ce qu'ont fait les Français avec le rap, je trouve, c'est ce qu'ont fait les Palestiniens là avec le hip-hop.
Ce qu'ils sont en train de faire.
Ça fait un moment en fait, mine de rien. Ça fait un moment là, on en entend beaucoup plus parler parce que. Enfin, il fallait que ça sorte et j'ai senti que ça allait sortir ce truc-là. mais ça fait un moment avec Ramal Underground quand même. Depuis Ramal Underground, ils étaient actifs à partir de 2005-2006. Donc ça commence à faire longtemps, ouais. Et c'est eux, je trouve vraiment, qui ont développé le hip-hop arabe. Ils ont inventé le hip-hop arabe, et pas que le hip-hop en arabe.
Mais comme quelque chose un peu d'unifié, ou qui aurait une identité unifiée ?
En fait, si vous voulez, ce qu'ils ont fait, c'est que...
J'aime bien parce que les mains sur la table. Alors, Marie-Richaud, je vais te dire méthodiquement le hip-hop arabe. Prépare-toi.
En fait, voilà, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont, dans leur manière de sampler la musique, ils ont utilisé leur patrimoine musical, qui est colossal. La musique classique et folklorique arabe, c'est un patrimoine colossal que la jeunesse connaît très très bien, contrairement à certaines autres cultures. Moi, si vous me parlez de musique en France, à Edith Piaf, le plus vieux que je connais, c'est peut-être Edith Piaf, vous voyez. Je suis pas aussi nourrie en fait de l'histoire musicale française.
Alors que c'est une transmission qui se fait de manière beaucoup plus fine.
Oui. Là-bas, c'est très naturel, en fait. Tout le monde connaît Fairuz. Tout le monde connaît ses classiques, en fait. Tout le monde connaît Om Kalsoum. Tout le monde en connaît plein, plein, plein de titres. Bon. Les producteurs de musique hip-hop arabe, ils ont samplé ces classiques-là, parfois de la musique folklorique, et ils ont mis, en fait, en avant le sample d'une manière où ils ont inventé un son hip-hop arabe vraiment. Je pense par exemple à Ramal Underground, certains samples de Fairuz. Enfin, c'est d'un raffinement le sample, parce que ce qui se passe, c'est que la musique arabe, elle a déjà été samplée. On parlait de DJ Mehdi tout à l'heure, il a samplé, il a utilisé des samples de musique arabe, notamment dans l'album qu'il a fait avec le 113, qui est un album magnifique, enfin mythique, intéressant, enfin tout ça. Après, il est resté quand même dans un côté un peu kitsch, on va dire. Vous voyez, c'est les petites derbouka, les petits cling cling, bon. Les producteurs de hip-hop arabe, ils n'ont pas ce rapport-là.
Mais c'est moins distancié, peut-être.
C'est moins exotique. Vous voyez, ça peut être très exotique, hein, la culture arabe, la musique arabe, même pour un maghrébin en France. Hein, ça peut être quelque chose de très, très exotique. Parce que voilà, on est aussi imprégné des entre guillemets, des clichés, des représentations un peu limitantes auxquelles on est confronté quand on est en Occident. Et mine de rien, quand on passe 90% de son temps dans un pays occidental, on est traversé aussi par ces représentations-là, en fait, ces représentations orientalistes, quelque part. Mais eux, les producteurs arabes, ils sont au cœur de cette...
Donc ils ne se disent pas que la musique arabe, c'est qu'un petit bout de rail avec de la darbouka.
Exactement, voilà, vous avez tout dit.
On va les écouter, du coup, Ramal Underground.
انتقض حياتي بزيك الميكروفون نطيح يا بتسيح بلاش مش الهجوم وخلي ريحة جبتك تفيح انت قرر ما الحياة كلها قرارات تزل لسه مش شايف روح البس نظارات ركز معاي بجيب معلومات اكتر من المخابرات مش شي عشان ما حبيتهم خدوا الموضوع محاضرات انت قرر يا بتبيع روحك بتراب المصاري يا بتصير مستقل وبتفوت انتحاري ما تخلي حدا ياخد عنك اي قرار خد قاعد البيض يساعدك فايت فيك استثمار وهو بيقرر يا للشورى يا للدولار فخذ القرار ما تكونش حمار هذا المثل يا مصار امسي تجاري يا مطار ولا مش قصدي من المطار فاحسن لك ضل بعيد عن هالاضرار وثق الرد تصير نجم انا حكون الشمس اقرب للناس وانت قفص مكتوب عليه ممنوع اللمس عندك الحريه لا تقرر فما تحاول تقرر اذا مش متحمل ما تتردد تعطي مايكروفون وتمرر وكل شي قدامك عندك اكتر من خيار فانت اعمل القرار عندك الحريه لا تقرر فما تحاول تقرر اذا مش متحمل ما تتردد تعطي مايكروفون وتمرر وكل شي قدامك عندك اكتر من خيار فانت اعمل القرار محتار لانه اذا باخذ هذا القرار كل حياتي ماشي عالتالي بتصير اطار انا اللي بقدر وما حد بقرر عني ما بتقولي كيف اكتب كلماتي وما بتقولي كيف اغني اخذت قرار طب ودع التاني في هالحياه ما حد بعطيك فرصه تانية قرارات يمين شمال شمال يمين بقدر القرارات صرنا معميين فيش اشي متاكد ممكن كل حياتك تبدي بثانيه زي السيجاره لتاكد خذ قرار واعرف انك هلا عم تلعب بقمار عم تلعب في النار ممكن تصير حياتك اخت منيوكي او ممكن تصير دمار وبعد ما تصير ما تقول يا ريت ما صار ما تقول يا ريت ما تقول يا ريت ما صار عندك الحرية لتقرر فما تحاول تقرر إذا مش متحمل ما تتردد تعطي مايكروفون
Vous parliez de la délicatesse du sample d'un patrimoine de classique de musique arabe. Là, ça passe par ce petit pizzicato des cordes au début du morceau, mais aussi le retour d'une micro-phrase de cordes. Et puis, finalement, le mix est total, puisqu'il y a un peu de guitare électrique ou de violon électrisé, puis du scratch, puis le flow. Bref, on sent que c'est le bon gros mélange de ce que vous appeliez la naissance d'un courant musical qui serait le hip-hop arabe dans Ramallah Underground.
Vous êtes musicologue, en fait.
Tellement pas.
Oui. Mais vous avez très bien résumé ça. C'est exactement ça, en fait. C'est un emprunt continuel et perpétuel d'influence infinie. Et cette influence majeure, quand même, de la musique arabe, de sa musique classique et folklorique, là, c'était plutôt classique, mais il y a des emprunts à la musique folklorique qui sont remarquables. Cet emprunt-là qui marque, en fait, l'identité hip-hop arabe et par la suite l'identité plus électro. Aujourd'hui, on assiste, il y a une scène électro quand même assez importante dans le monde arabe. Et pas que en Palestine, les Libanais, les Jordaniens, les Tunisiens se distinguent pas mal dans la musique électronique et c'est des emprunts subtils en fait, pas du tout du côté orientaliste, exotique, c'est des emprunts très raffinés et ça c'est pour quelqu'un comme moi qui adore disséquer ce que j'écoute, enfin je suis pleine d'admiration pour la subtilité du travail en fait.
On a parlé de vos voyages, Missiness, et tout ça, ça fait que vous rentrez, si ça existe pour vous cette idée-là, et vous faites partager ces musiques-là dans des DJ sets avec quoi comme propos ? L'idée de dire ce qui se dit là-bas. Je vais le jouer ici, ce qui se fabrique là-bas, je vais vous le faire entendre, ou juste, en fait, il y a de la bonne musique et on a tous envie de danser, donc c'est ça qui nous réunit.
Je pense qu'en fait, oui, c'est ce que vous venez de dire à la fin, il y a de la bonne musique, on a tous envie de danser, de découvrir des choses, donc c'est ce qui nous réunit, ça c'est un propos conscient. Je pense qu'il y a toujours des propos inconscients quand on fait de la musique ou qu'on partage de la musique, ou même quand on peint ou quand on fait de la photo, et c'est assez touchant parce que souvent quand j'ai des retours sur mes DJ sets, on me dit souvent que ça fait voyager. Alors je suis assez contente quand on me dit ça.
Sans que les gens aient le sous-texte, vous n'avez pas forcément un micro pour faire exactement ce qu'on est en train de faire là,
c'est-à-dire disséquer.
Vous ne présentez pas les morceaux, vous ne faites pas de cours de musicologie ou d'ethnomusicologie. Donc les gens, sans savoir tout ça, sont au courant qu'ils sont en train de traverser des espaces.
C'est ça, et des styles. Parce que si avant, en fait, moi, j'étais un peu cloisonnée ou un peu limitée parce que je jouais justement que de la drum and bass. À partir du moment où je me suis dit, ok, maintenant tout ce que j'aime et que j'ai envie de jouer, je le joue.
Ça passe.
Voilà. Mais un DJ set de 2 heures, vous pouvez entendre du hip hop, de l'électro, de la musique traditionnelle, quelques classiques électro hip hop français ou américain. Ça peut aller jusqu'au dub. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de truc où c'est une masse musicale qui pour moi fait sens, mais qui en tout cas en termes de style est pas forcément peut sembler un peu disloqué. J'essaie de trouver une cohérence dans tout ça et en fait je pense que c'est ça qui m'oblige à construire un récit et qui fait que certaines personnes ont l'impression que je les emmène en voyage, en fait, parce que c'est, oui, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la construction. De, en anglais ils disent it's a journey, vous voyez, c'est un cheminement, en fait, voilà. Et je suis assez contente que ça puisse être ressenti, oui, de cette manière-là, parce que ça veut dire que finalement mon déplacement à moi, physique, intellectuel, il se ressent quand je fais des DJ sets. Et c'est quand même un ressenti plutôt agréable, en fait, de se dire que ça peut être ressenti par l'autre.
C'est un chemin que vous préparez avant les DJ sets, que vous écrivez, ou vous vous laissez la possibilité de le construire vraiment en live et en direct?
En fait, en général, je prépare des DJ sets et puis après, je fais autre chose. J'arrive.
Ça rassure.
Oui, et puis c'est... Et puis quand même, il y a des DJ sets où j'arrive, j'ai envie de dire quelque chose, quoi. J'ai découvert ça, il faut absolument que je le mette dans la playlist. Là, je vais jouer à tel endroit, alors j'aimerais bien faire un set plutôt de style-là, parce qu'en fait, bon. Et en fait, à la fin, généralement, je fais complètement autre chose que ce qui était prévu et tout. Mais bah, je sais pas, c'est comme si vous partez en voyage et que justement, et que en fait, ça se passe pas du tout comme prévu et que vous avez prévu d'aller d'un point A à un point B, et en fait, finalement, vous êtes passé par
le point C,
voilà,
E, F et J,
par toutes,
quoi,
les lettres. Voilà, par tout un tas de points imprévus. C'est un peu pareil. Ouais.
On a parlé tout à l'heure de l'ancrage très important de votre enfance, adolescence, jeunesse d'ailleurs, hein, dans le 18e arrondissement à Paris. Et il s'y passait ça, il n'y a pas très longtemps.
Je m'appelle Delphine, j'ai 30 ans et j'habite à Stalingrad. Et j'aide les migrants depuis le mois d'avril dernier, donc ça va bientôt faire un an. Et j'ai commencé parce qu'un des campements de rue de cette époque-là était devant chez moi. Mon immeuble donne vraiment sur le boulevard de la Chapelle. Du coup, on a été plusieurs de l'immeuble à se mobiliser.
Pour moi, c'est un vendredi soir, on doit être début septembre. Et j'ai un ami qui me dit « Demain matin, j'ai ma voisine qui descend avec son seau de thé, là, parce qu'avec les réfugiés. Bah, » Je suis allé le lendemain et puis voilà. Puis après, je suis allé tous les jours avec le seau de thé.
No more tea.
On était très nombreux à se questionner là-dessus et avoir envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi faire. Et à un moment, tout le monde a finalement est passé à l'action.
Quel que soit le lieu, s'il y a un camp qui commence à se former, il y a des initiatives citoyennes qui supportent pas, qui se disent « tiens, je vais les servir un petit café ». On s'aperçoit, et c'est super rassurant, je trouve qu'il y a toujours la même initiative qui démarre.
J'étais en train de lire ce passage. Les conséquences de la guerre, cette chose exotique au coin de ma rue. Comme beaucoup dans le quartier, je changeais de trottoir pour aller de mon domicile au métro. Je ne voulais pas voir les sacs de couchage humides dans la bruine au petit matin, d'où ressortait parfois la tête d'un enfant, sentir la pisse sécher sur le trottoir, entendre les toux par quinte, les complaintes et les rixes. Je me disais que ce problème relevait de la puissance publique. Ça me hérisse le poil.
Just walking. Walk.
Il y a des réfugiés à Paris, dehors. Il y a des mineurs isolés, dehors. Et il y a plein de façons de s'investir. Il y en a qui sont plus du matin, ils sont au petit-déj. Il y a des gens qui peuvent faire de l'accompagnement au sens juridique et autres. Il y a des gens qui font des cours de français. Il y a vraiment plein de façons de s'investir. Actuellement, on cherche entre autres des gens qui ont du temps dans la journée pour passer du temps avec des réfugiés, soit pour les accompagner à différentes petites choses, soit pour passer du temps simplement.
You're nice.
C'est un petit bout d'un reportage d'Elsa Denac diffusé dans L'Humeur Vagabonde sur France Inter en 2017. Miss Inès, plusieurs façons de s'investir face tout simplement à ce qui se passait en bas de chez eux. C'est vraiment ce qu'on entend dans la voix de ces hommes et ces femmes qui observaient d'autres hommes, d'autres femmes et d'autres enfants dormir la tête contre le sol ou dans des sacs de couchage ou sur des cartons parfois au tout début des camps, hein, parce que ça a commencé très très tôt au métro La Chapelle et entre le métro La Chapelle et Barbès. Une façon qui a été la vôtre de faire avec cette réalité-là, c'est de continuer de faire ce que vous faites, de continuer de faire ce que vous aimez et de partager de la musique. Une des façons,
oui. Il y a eu d'autres façons et je suis contente de parler de la façon musicale parce que c'est une façon importante, en particulier parce que la migration est une chance phénoménale pour la création.
Vous parliez de cheminement, de voyage, de bouger.
Oui.
C'est exactement ce que vous décriviez tout à l'heure.
C'est une transmission magnifique. Bon, aujourd'hui, il y a Internet, donc on peut être au courant de tout ce qui se passe partout, mais il y a eu des périodes de l'histoire où la seule façon de découvrir une autre musique, c'était soit qu'un musicien vienne à vous ou que vous alliez ailleurs, ou d'aller ailleurs, en fait. Et le projet, en l'occurrence, dont on parle, qui est une transite, c'est une manière de magnifier ça et de permettre cette transmission, de permettre ce partage-là, oui, oui.
Alors, ça prenait quelle forme, ce projet une transite?
Bah, c'est en fait en organisant des concerts ouverts à tout le monde, parce qu'on fait pas de prix d'entrée, on fait une caisse à entrée libre. Et en invitant des musiciens ou des musiciennes ou les deux qui sont en transit même à Paris parce que voilà, ils ont fait un concert ailleurs en Europe la veille ou l'avant-veille ou le surlendemain et qui sont d'accord pour offrir un concert, en fait, ouais.
Et vous précisez, enfin, on sent que vous ne précisez pas pour offrir un concert à, alors je mets entre guillemets, des réfugiés, à des migrants, à, vous précisez pas pour que cette ouverture-là, elle ne soit pas comme à destination de...
Parce qu'en fait, en utilisant ces termes-là, on réduit les humains à leur statut administratif. Or, on n'est pas un passeport, on n'est pas un statut, on est une personne, on est un être vivant, complexe et riche. Et je pense d'être dans la rue, dans des camps, ou même d'être pas dans des camps d'ailleurs et pas dans la rue, d'être en déplacement et de faire une demande d'asile par exemple, c'est énormément de contraintes administratives auxquelles on est confronté en permanence. Et du coup, je me disais que c'était intéressant qu'il y ait des espaces où où ce fait-là tombe en fait, n'existe plus et on est juste l'humain qu'on est. Et en fait, il n'y a pas que les réfugiés et les migrants qui sont confrontés à ça. Et du coup, c'est pour ça que je précise pas, c'est que finalement, ça concerne tout le monde, tous ceux qui veulent venir, toutes celles qui veulent venir. Peuvent être concernés aussi par ce lâcher prise là, on va dire.
Est-ce que ça teintait ces soirées? Est-ce qu'elles étaient particulières ou est-ce qu'elles étaient comme les soirées où les gens dansent de manière générale?
Alors la première soirée qu'on a fait, c'était avec Elsara. C'est elle qui a voulu faire un concert à la base. Moi j'étais d'accord pour faire un concert, mais
c'est qui?
Elsara and the New Buttons. C'est la chanteuse du groupe Elsara and the New Buttons, qui est une chanteuse compositrice, interprète, qui est née au Soudan et qui ensuite a grandi aux États-Unis. Elle est souvent en France en tournée. Et en fait, je l'ai rencontrée un peu comme ça, par hasard, à un de ses concerts à Paris. Enfin, pas vraiment par hasard, mais elle était en concert à Paris. J'ai parlé un peu avec elle. Et je lui ai demandé si elle était d'accord pour venir chanter sur le camp, parce qu'on organisait un bal des migrants et elle n'était pas très chaude pour chanter, mais elle m'a dit qu'elle voulait voir de quoi il s'agissait. Quand je lui ai dit quand, elle n'a pas très bien compris. C'était à Pajol, ouais. Et elle est venue et elle a été profondément choquée par ce qu'elle a vu, puisque on ne peut pas réagir autrement, je pense. Et elle a quand même chanté avec sa sœur Naïd en a cappella. Ça a été un moment, mais c'était le pouvoir de la musique. Elles ont commencé à taper dans leurs mains. Elles ont chanté un chant traditionnel d'un village soudanais qui parle d'exil. Et là, d'un seul coup, mais il y a une espèce de jet d'émotion. Tout le monde avait, enfin, je sais pas, ça nous a tous transportés tous ensemble et toutes ensemble. Et elle m'a contactée un mois plus tard parce qu'elle voulait faire un concert et c'est comme ça qu'une transite est née. D'ailleurs, une transite, c'est sa trouvaille. Le nom une transite, c'est sa trouvaille. On cherchait quelque chose et elle a trouvé ça. Par la suite, j'ai continué un petit peu le projet, parfois sous d'autres formes. Là, je vais l'arrêter un petit peu parce que organiser des concerts, c'est très très prenant et que je voudrais plutôt organiser ma propre musique en ce moment. Ouais.
On a le choix d'écouter là, ou bien un morceau de Chinese Man Warriors, ou bien un morceau de Eisbeck Orchestra. Si vous étiez DJ par exemple dans la vie, vous passeriez quoi?
Warriors.
Let this be the last time that a girl is forced into early child marriage. Let this be the last time that a child loses life in war. Let this end with us. Let's begin this ending together, today, right here, right now.
C'est vous qui avez choisi, et puisque vous n'êtes pas muette derrière des platines, Miss Inès, vous allez nous dire pourquoi?
C'était dur, hein, c'est un choix difficile.
Mais c'est
hein.
Pas grave, on va entendre le deuxième, ne vous inquiétez pas, c'était un faux choix.
Merveilleux. Je l'ai choisi celui-là parce que, en fait, moi je connaissais vaguement Chinese Man à travers ce qu'il y a de plus connu, qui c'est pas trop ma tasse de thé musicale. Et en fait, j'ai joué au Festival Musique Métis il y a pas très très longtemps à Angoulême, et je jouais juste après eux. Et donc, je les ai vus sur scène pour la première fois, et j'ai pris une claque, parce qu'ils ont une énergie, enfin, c'est d'une intensité, c'est incroyable. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils sont beaucoup plus dub, justement, et drum and bass que ce que je pensais, ouais. Du coup, je suis allée écouter un petit peu ce qu'ils font, et je suis tombée sur ce morceau qui, il me semble, est le premier morceau qui ouvre, enfin, c'est le morceau qui ouvre leur dernier album.
Et on entend des petits mix, on entend des petits samples, pardon, de
ouais,
oud, non?
Exactement, il y a un oud. Alors, je sais pas si c'est un sample ou si c'est quelqu'un qui leur a joué le oud. J'aimerais beaucoup leur poser la question. Parce que le oud est très joli, très fin. Mais ouais, je trouve que c'est un très très beau morceau, c'est un très beau travail, une très belle production.
Mais pour l'instant, il est dans aucun mix signé Miss Inès.
Non, mais je l'ai joué déjà plusieurs fois en DJ set, ouais.
Parce que les mix, donc c'est une autre pratique, et on peut les entendre sur la plateforme SoundCloud si on suit votre profil. Et pour vous entendre en DJ set, faudra aller par exemple à Marseille. À Marseille, ce sera le 5 juillet. Non, à Marseille, ce sera le 28 juin avec Shadia Mansour. Le 5 juillet, ce sera au festival Timitar à Agadir. Et le 13 juillet prochain pour les Sud à Arles.
Oui, et ça va être super la soirée avec Shadia Mansour. Elle est déjà venue à Paris, c'est une rappeuse magnifique palestinienne, et elle sera aussi d'ailleurs en concert, j'en profite, le 30 juin à Paris, il ne faut pas la rater si vous l'avez ratée
dans le Festival des Cultures Urbaines,
au Palestine Out Festival. Il y a d'ailleurs une très belle rencontre autour des Africains palestiniens, en fait, et des réfugiés ce soir à la colonie.
Merci beaucoup. Je place, puisque nous avons parlé de hip-hop français, de rap français, que dans le dernier numéro de la revue de France Culture qui s'appelle Papier, on peut lire en longueur un entretien retranscrit que nous avions eu avec le rappeur Sofiane, qui sera lui au Festival d'Avignon le 15 et 16 juillet dans le rôle de Gatsby le Magnifique. Et on termine Miss Inès avec Eisbeck Orchestra.
Disent qu'au Liban, les religions se marient. J'ai pas dû être invité au mariage. Je les ai toujours vus se battre, et ça depuis l'âge de 15 ans. Pourtant, on est tous nés innocents. Demande à ma mère, je suis pas né avec un couteau entre les dents. Je débarque dans ce pays.
Au son ce soir, c'était Valérie Lavalard à la réalisation, Lise-Marie Barré, Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain de Bec de Lièvre m'aident à penser et préparer cette émission. Vous pouvez la réécouter quand vous voulez sur franceculture.fr pour toute la vie. Puis vous pouvez aussi vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. On se retrouve demain à 21h. Très belle soirée à vous.
Jamais les pieds sur terre, en tout cas pas sur la leur. Leur terre de merde, leur pierre de marbre, leur martyr chaque jour le navre et les larmes de ma mère pour un Paris Beyrouth sans route. elle savait ce qui nous attendait. J'étais heureux, j'ai raté les cours, c'était les vacances pour moi. Le soleil et la mer, je pensais pas que j'allais vivre dans mon oseille et la mer. Et plongé dans la mer jusqu'au cou, le clash des cultures fut brutal. Et je cite l'interdiction formelle d'être laïque, classé comme un dossier par ordre alphabétique. On te demande pas ton avis, surtout quand t'es chiite au milieu de la bourgeoisie. Si au moins j'avais choisi, je crois que j'ai resté à Clichy. Aurais passé ma vie, aurais moisi. Ça valait mieux que supporter leur manque de respect et leur communauté.